Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Félix, l'Institut de cardiologie a nommé à la tête de son comité d'éthique un gars qui trempait dans les magouilles jusqu'aux oreilles.
C'est drôle. C'est intéressant l'article, de Nicolas Lachance aujourd'hui, notre bureau d'enquête, qui parle de Pierre Anctil, qui est à la tête du CA, du centre hospitalier de l'université et puis de l'Institut de cardiologie. Et puis, on apprend qu'il a fait des déclarations assez intéressantes lors de la fameuse enquête Mâchurée. Ce que Nicolas raconte aujourd'hui, c'est qu'il a admis, en fait, à la police avoir trempé dans des stratagèmes douteux de financement politique à l'époque où il travaillait où? Chez SNC-Lavalin.
Ben,
on sait que chez SNC, ils ont eu 2 ou 3 problèmes avec le financement politique, n'est-ce pas? Alors, ces déclarations-là, puis bon, évidemment, Nicolas Lachance ne sont pas ça d'un chapeau, là. Il a consulté une déclaration qui a été faite à l'UPAC par Pierre Anctil. Je te rappelle qu'il y a eu une certaine fuite à un moment donné de données dont nous avons, entre autres, été les bénéficiaires sur l'enquête Mâchurée. Et il y a un paquet de déclarations là-dedans. Puis somme toute, c'est assez récent parce que c'est survenu en avril 2014. Puis en 2014, ça faisait déjà plusieurs années que les enquêtes de corruption étaient en cours. On était à la fin de l'enquête Mâchurée, si tu veux. Alors, pour moi, c'est récent, même si ça fait 6 ans. Il dit qu'il a rencontré à plusieurs reprises Marc Guilbeault, qui lui a remis des enveloppes contenant des chèques. Et là, ben tu vois, il est sur le comité de la gouvernance et de l'éthique.
De l'éthique. Montréal. Attends une minute, le gars était des magouilles, puis il était à la tête du comité d'éthique.
Ben, tu vois, c'est ça qui est confrontant, je trouve, je trouve que ça résiste mal, si tu veux, à une apparence, en tout cas, d'une gestion qui pourrait s'avérer déficiente lorsque tu fais des déclarations comme ça, puis d'un côté, puis là, t'es chargé dans ce comité-là, comité de gouvernance, d'analyser, entre autres, le projet de Précinomics, qui est extrêmement controversé. Ce projet-là, tu sais, ça vise quoi? L'exploitation de la base de données de santé des Québécois. Et tu sais que, aussi, notre bureau d'enquête a révélé que Pierre Fitzgibbon souhaitait vendre des données médicales des Québécois aux pharmaceutiques. Alors, l'éthique est... En fait, c'est une nouvelle sur l'éthique dont on parle ce matin. Il tourne autour de ça, un gars qui a pataugé, si tu veux, à son propre aveu dans le financement du Parti libéral pendant les années de collusion, construction et construction, les constructions, les 3C, comme on les appelle. Alors, c'est curieux.
Et lui, il était impliqué aussi dans toute cette histoire-là, des données qu'on remettrait à des grosses compagnies pharmaceutiques, c'est ça, puis Mme Desmarais qui est là-dedans, puis tout ça. C'est assez complexe, mais il trempe là-dedans. Alors, on sait qu'il est pas blanc comme neige. C'est assez particulier. Finalement, les policiers n'entreront pas dans les maisons.
Oui, bon, là, c'est une volte-face assez claire que l'on a vue hier de la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbeault. C'était manifestement une erreur du docteur Arruda qui ne s'est pas mêlé de ses affaires.
Ben oui.
J'étais tenté, en voyant cette déclaration d'Arruda, de reprendre, si tu veux, certaines déclarations que les policiers font à porte close dans leur bureau quand ils veulent que les autres ne se mêlent pas de leur affaire. Ils disent que quand ils parlent des procureurs de la couronne, exemple, qui doivent déposer des accusations contre un suspect, puis des policiers qui doivent les arrêter, eux autres, ce qu'ils se disent, c'est que la police, et puis que le procureur procure. Mais dans le cas de Horacio Arruda, là, c'est que le médecin soigne, et que la police, tu sais, c'est pas, dans le fond, il a dépassé un peu largement, en fait, son champ de compétences, et il a vu que ces questions-là étaient trop délicates pour être abordées à bâton rompu, comme ça, dans une conférence de presse. Alors, Geneviève Guilbeault est venue remettre les pendules à l'heure, l'expression est éculée, mais le mot est juste.
Ben oui.
Elle dit, s'il n'y a pas question de permettre aux policiers d'entrer dans les maisons privées sans mandat, là, c'est ça. Donc, elle dit que, en même temps, il y a des précisions qui sont assez importantes dans ça. C'est bien sûr que elle ne permet pas, elle ne veut pas que le policier entre dans une résidence sans mandat, puis je pense qu'aucun citoyen du pays non plus ne veut pas ça, et du Québec. Par contre, ce à quoi ça ouvre la porte, évidemment, c'est qu'un policier passe à travers toutes les étapes légales, comme il se doit, et aller chercher un mandat pour pénétrer chez quelqu'un. La question que je me pose à cet effet-là, on sait que la question des télémandats existe. Si on croit, là, d'abord deux choses, Richard. Si on croit qu'il y a un acte en danger la sécurité d'autrui qui est en train d'être commis dans une maison, puis que la vie de quelqu'un est éminemment en danger, le policier n'a pas besoin de mandat pour rentrer dans une maison.
Mais non, si on entend crier là, une femme, puis visiblement, là, tu sais que ta voisine est en train de se faire frapper, se faire battre par son mari, c'est certain que là, il n'y a pas besoin d'aller voir le juge puis d'avoir un mandat. Là.
Non, c'est ça. Il y a des cas évidemment moins graves où le policier doit aussi entrer dans une maison pour recueillir de la preuve après des histoires de meurtre, etc. Ça, je crois qu'on fonctionne souvent par télémandat. Donc, ça s'obtient un peu plus rapidement, mais c'est quand même un juge qui l'octroie. La question qui me vient à l'esprit dans ça, c'est si un rassemblement chez quelqu'un, là, disons qu'il y a 25 personnes dans une maison à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, en train de festoyer, puis tu vois bien qu'il y a du monde. As-tu vraiment le temps de faire tout ça? Tu sais, je veux dire, quand la police est devant chez vous...
Non.
Ça vaut quoi?
En même temps, est-ce que la vie d'une personne est vraiment en danger là, tout de suite, maintenant? Non. En fait, ce qu'elle disait, Mme Guilbeault, entre les lignes, là, si vous voulez pas que la police rentre chez vous, aidez-nous à vous aider. Faites en sorte que vous respectiez les règles. Faites preuve de bonne volonté, de responsabilité citoyenne. Sinon, vous nous donnez pas le choix. À un moment donné, il va falloir y aller avec toutes les forces de la loi. On n'est pas rendu là. On veut pas faire ça. Mais là, aidez-nous.
C'est ça. Oui, puis elle a été appuyée par Christian Dubé en disant... avant d'envoyer la police chez les gens, il va falloir que le gouvernement fasse une démonstration que c'est le dernier des recours. C'est juste... Ah non, c'est Dominique Anglade qui a dit ça. Je sais que la mauvaise personne. Je disais juste que M. Dubé appuyait évidemment cette idée-là de ne pas entrer dans les maisons. Mais ce qu'on retient, tu as absolument raison, ce qu'on retient, c'est aidez-nous à vous aider. Alors, si vous voulez pas ça, aidez-nous à vous aider.
Ben, tout à fait. Écoute,
ce qui n'est pas une mauvaise affaire.
Ben non.
C'est quand même un peu d'adhésion. Après avoir dépassé largement ce qui était possible de dire, je réfère à ce que M. Aouda disait sur l'entrée des policiers dans les maisons, ben là, tu recules un peu, mais tu essaies de susciter l'engagement.
Ben oui, Arruda arrivait avec...
Si vous voulez pas ça, là, arrêtez donc.
Arruda arrivait avec le bâton, puis elle est arrivée un peu avec la carotte. Écoute, je veux revenir en arrière sur Pierre Anctil, revenir tout de suite en arrière, parce qu'il était lié à d'autres controverses. Le texte là, de Nicolas Lachance est très intéressant. Il était lié, entre autres, à du financement illégal pour le référendum de 1995. Et là, ça, c'est vraiment incroyable. Selon l'enquête, le camp du non au référendum de 1995 avait dépensé $500,000 de dollars de façon tout à fait illégale. Tu sais, les souverainistes et les indépendantistes qui disent on s'est fait voler le référendum parce que c'était très, très juste. Vraiment, ils ont perdu de très peu le camp du oui. Quand ils disent on s'est fait voler le référendum par, entre autres, l'argent, qu'avait dit Jacques Parizeau, mais tu regardes ça, tu dis effectivement, ils ont utilisé des fonds illégaux et M. Anctil le trempait là-dedans. Bref,
il y a un rapport du directeur général des élections du Québec sur ces activités-là lors du référendum de 95. On parle notamment du fameux Lovin. Hein, on pouvait venir à très peu de frais venir dire au Québec qu'on aimait leur présence à l'intérieur du Canada. Tu t'en rappelles? Alors, dans ce document-là, qui a été concocté par le DGEQ. Il soutient le document qu'il y a des personnes en autorité au Parti libéral, Stéphane Bertrand, c'est l'ex-chef de cabinet de Jean Charest, Pietro Perino, ex-secrétaire général associé, et qui, Pierre Anctil, ont manqué de vigilance par rapport aux activités du groupe Option Canada, puis du Conseil pour l'unité canadienne, parce que les deux ont participé au financement du camp du non, mais guess what, comme ils disent, en oubliant de déclarer quelques dépenses à la norme officielle, si tu veux, de l'organisation. Puis M. Anctil était membre du comité de l'organisation référendaire du camp du non aussi. Un demi-million de dollars dépensés de façon illégale.
Donc ça amène de l'eau au moulin aux gens qui disent on s'est fait voler le référendum. Mais moi je me souviens, j'étais là au Lovin, j'étais allé voir ça là au parc au parc Prenne-McGill. Écoute, c'était surréaliste là, de voir les autobus plein de Canadiens anglais qui venaient nous voir avec des drapeaux du Québec puis qui voulaient quasiment nous frencher sur la rue, littéralement, là, en disant « On vous aime, on vous aime. » Oh, Dieu qui nous aimait à cette époque-là. Hein. Il n'y a rien de pire. C'est comme un gars, là. Sa blonde, elle dit « Je te quitte. » Là, je m'en vais. Oh, là qu'il l'aime, soudainement. Là, les fleurs, puis on va aller au restaurant. Ça fait 2 ans qu'il ne sort pas puis qu'il parle pas. Mais là, juste comme elle veut se divorcer, et tabarnouche qu'il l'aime soudainement. Viens-t'en, on va aller chez Burgs, bébé. Écoute, on va parler. Madame Pascale Ferrier, est-ce que ça va bien, Madame Ferrier? Non, ça va pas bien. J'ai eu une bad luck.
Je suis pas au stage.
Alors, parle-nous de Mme Ferrier.
Pascal Ferrier, c'est mon collègue Jonathan Tremblay qui nous parle de ça dans le journal aujourd'hui. Est dépassé par les événements, ça aussi, ça me fait un peu rire parce que moi aussi, si je me trouvais accusé devant un juge fédéral d'essayer d'envoyer poison au président américain, je pense que je serais un peu dépassé aussi. Alors, c'est son avocate qui c'est son avocate qui parle. Elle dit les derniers jours ont été. Moi, il y a des déclarations des fois qu'à leur face même, je lis ça, puis tu sais, c'est évidemment pas de la faute à Jonathan. Il écrit ce qu'il y a devant lui. Mais l'avocate commise d'office pour Pascal Ferrier, qui s'appelle Fonda Kubiak, au tribunal de Buffalo, où elle a été accusée, elle dit les derniers jours ont été un peu fous. Il se passe beaucoup de choses pour elle en ce moment.
Là.
Ben oui.
Tu sais, t'as voulu tuer le président des États-Unis comme da.
C'est ça. Puis les journées sont un peu folles. Alors, je voulais juste soulever ça. Puis au fond, pour le reste, elle dit essentiellement ce qu'on s'était dit ensemble, c'est que le procès pourrait être transféré, pas le procès, mais la suite des procédures à Washington D.C. Et là, il y aurait d'autres accusations qui pourraient tomber contre elle. Mais j'avais inscrit ce sujet à l'alignement de notre chronique ce matin pour te parler d'un message que j'ai reçu concernant justement la nouvelle que l'on a publiée hier que j'estime comme on dit en journaliste bien sourcée, donc avec des sources concordantes très au fait de l'enquête, qui nous disait que elle aurait pu être radicalisée par des mouvements d'extrême
gauche
et sur les réseaux sociaux entre autres. Et là, tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrit, à toi et à moi d'ailleurs, que nous venons de créer une extrémiste anti-Trump et que c'est une création de toi, de moi, du Journal de Québec, de Montréal et de TVA Nouvelles. Évidemment, moi, dans mes temps libres, quand je n'ai rien à faire, j'essaie de créer, tu vois, plutôt que des vaccins pour combattre une pandémie, j'essaie de créer des fausses nouvelles parce que ça occupe mon temps. Je comprends, j'adore.
Ben oui, on n'a pas le droit de critiquer Trump parce que là, soudainement, on a créé un monstre qui est cette femme-là. On est directement responsable. C'est incroyable.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait inventer hier? Qu'est-ce qu'on pouvait créer? Alors, tu vois, en fait, on fait tous partie, Richard, du problème et on a créé cette... C'est notre création, c'est notre bête, Pascal Ferrier. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée.
Bonne journée, Félix. Salut. Salut. Bye. Alors, on voit la photo en page 6 du Journal de Montréal, le jour où elle a été reçue citoyenne canadienne. Comment elle va payer ses avocats? Vous imaginez, le payer un avocat aux États-Unis pour te défendre parce que tu as voulu tuer le président des États-Unis, ça va coûter cher, elle va recevoir un méchant bill.